chers amis, bienvenue à cette émission de la série « La véritable école, c'est la vie ». Un gigantesque trésor d'enseignements donné à l'époque actuelle directement par la sagesse divine nous permet d'apprendre de nombreuses choses pour notre vie. On peut véritablement dire que depuis près de 50 ans, le ciel est grand ouvert. Le royaume éternel se révèle par la bouche prophétique et nous enseigne comment réapprendre à vivre les lois du royaume éternel, qui est notre patrie véritable. Il nous montre comment nous pouvons nous y exercer chaque jour et faire nos propres expériences afin de suivre pas à pas le chemin qui ramène à la maison du Père, le chemin qui conduit à Dieu en nous. Résumé en quelques mots, c'est l'amour pour Dieu et pour le prochain, qui inclut également les animaux et la nature. Tous ceux qui ont déjà entendu des extraits de ces enseignements donnés par la sagesse divine savent que Dieu ne punit pas, qu'il n'est pas un Dieu colérique qu'il faudrait apaiser par des rituels ou en observant certaines règles, comme l'enseignent encore certaines religions. Au contraire, Dieu est amour. Nombreux sont ceux qui vont acquiescer et dire « Moi aussi je crois que Dieu est amour, c'est évident ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment est-ce que je peux ressentir cet amour ou comment se manifeste-t-il dans ma vie? D'autres diront peut-être « Je vais mal et je ne ressens pas l'amour de Dieu, je crois que Dieu ne s'intéresse pas du tout à moi ». L'enseignement d'aujourd'hui parle précisément de l'amour de Dieu, qui est toujours présent, et de ce que nous pouvons faire pour nous en rapprocher. Nous savons, par exemple, que pour sentir le soleil sur notre visage, il nous faut sortir de l'ombre. Eh bien, il en va de même avec l'amour de Dieu dans notre vie. Il est toujours là, mais nous, où sommes-nous? Cet enseignement de la sagesse divine commence par les mots suivants. L'amour de Dieu est toujours pour le prochain. Si nous voulons nous rapprocher de l'amour de Dieu, nous devrions tout d'abord mettre de l'ordre dans notre tête en nous demandant si ce que nous pensons, disons et faisons correspond à l'amour pour le prochain. Est-ce en accord avec les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, le Christ? Si ce n'est pas le cas, l'amour de Dieu qui est en nous ne peut pas œuvrer. Nous perdons alors la capacité d'avoir une vision claire de notre environnement, de notre prochain, de la terre-mère. Nous ne pensons plus qu'à nous-mêmes, ce qui s'appelle l'égocentrisme. L'amour qui vient de Dieu nous permet de voir clairement les choses, de les soupeser et de savoir si notre prochain a besoin de notre aide ou s'il veut seulement profiter de nous. L'amour de Dieu est toujours prêt à se sacrifier, mais pas pour servir l'ego. Ainsi, il nous est commandé de ne pas aimer les comportements négatifs de nos prochains. Si nous aimons leurs comportements négatifs, nous les encourageons à nous exploiter toujours plus. Par contre, l'amour, lui, voit ce qui est véritablement positif en eux. Il nous est demandé d'aimer ce qu'il y a de positif dans notre prochain, c'est-à-dire Dieu, en lui. Si nous apprenons à aimer ce qui est au plus profond de notre prochain, nous ne le rejetterons pas. Pour autant, nous ne ferons pas à sa place ce qu'il est capable de faire lui-même. Nous accepterons notre prochain au plus profond de nous-mêmes et ne nous détournerons pas de lui. Apporter de l'aide à notre prochain lorsqu'il en a besoin, oui. Mais nous chercherons toujours à évaluer les choses. Notre prochain a-t-il besoin de cette aide ou peut-il s'aider lui-même en recevant un soutien de notre part?
Sur le chemin qui mène à l'amour de Dieu, la sincérité envers soi-même est essentielle. Par exemple, en ce qui concerne ce que nous pensons vraiment de notre prochain. Nous poursuivons la lecture de cet enseignement sur l'amour de Dieu. La plupart des gens sont très, très axés sur eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu. Ce n'est donc pas Dieu qui s'est éloigné des êtres humains, mais eux qui se sont éloignés de Dieu. Par conséquent, ils se sont également éloignés de ses commandements et des enseignements de Jésus, le Christ. Celui qui est axé uniquement sur lui-même, qui ne pense qu'à lui, qu'à son propre bien-être, cherche constamment à exploiter l'autre, à le faire réfléchir et travailler à sa place. L'amour centré sur l'ego est l'amour de soi, qui dévalorise l'autre pour se valoriser lui-même. L'amour pour Dieu et pour le prochain est l'amour cosmique universel qui ne comporte pas d'aspect égoïste. Ce n'est que lorsque nous parvenons à ressentir ce qu'il y a de plus grand dans ce qu'il y a de plus petit, ce qu'il y a de plus élevé dans ce qu'il y a de plus infime, celui qui est infini, Dieu, dans l'infini, que nous sommes sur le chemin de la vérité, qui est la loi de l'amour. Alors seulement, nous ne pensons plus si souvent à nous-mêmes et sommes un canal pour l'amour universel qui est unité. Gabriel ajoute, « La plupart des gens ne connaissent pas les forces de la pensée. Nous émettons inlassablement le contenu de nos pensées, j'insiste sur ce point, le contenu, et nous ne pensons pas qu'il reviendra un jour vers nous. Mais tout est énergie, donc aussi le contenu de toutes nos pensées que nous enregistrons dans notre conscient et notre subconscient, puis dans notre âme, ainsi que dans les constellations planétaires correspondantes, et qui revient vers nous un jour ou l'autre. Dans cette optique, nous pourrions nous interroger et nous demander si le contenu de nos pensées correspond à la loi de l'amour. Notre comportement au quotidien est-il en accord avec les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, le Christ ? Si ce n'est pas le cas, nous pouvons alors en déduire, à peu près, ce qui pourrait nous arriver. Beaucoup de gens ont peur de la loi des semailles et des récoltes et la rejettent. Cependant, même si nous la rejetons avec véhémence, la loi des semailles et des récoltes est une loi causale selon laquelle ce que nous émettons revient vers nous un jour ou l'autre. Le contenu de nos pensées, c'est-à-dire ce que nous émettons, détermine la façon dont nous vivons aujourd'hui, sur Terre ou dans l'au-delà, en tant qu'âme ou dans de prochaines incarnations. Toutefois, la loi de la causalité comprend aussi l'amour de Dieu. Car les effets, qui ne sont en fin de compte qu'une réaction, une compensation des causes que nous avons engendrées, ne s'abattent pas sur nous du jour au lendemain. Nous sommes nous-mêmes responsables de ces effets qui surviennent finalement pour compenser nos causes. Mais il est possible qu'ils nous touchent uniquement lorsque nous serons dans les royaumes des âmes ou lors d'une prochaine incarnation. Avant cela, nous sommes mis en garde à maintes reprises par notre conscience. C'est pourquoi notre conscience est un trésor inestimable. Elle nous montre ce qui est contre la vie et ce qui est pour la vie.
Notre conscience est donc un trésor. Généralement, on veille avec soin sur un trésor pour le préserver. Mais comment préserve-t-on sa propre conscience et comment se manifeste-t-elle? Voici ce que dit Gabriel à ce sujet. À quoi remarque-t-on que la conscience se manifeste? Cette question est souvent posée. Nous le remarquons à travers notre système nerveux, en particulier notre système nerveux central, appelé aussi plexus solaire, qui se trouve près de notre système digestif. Par exemple, lorsque les paroles que nous prononçons ont pour but d'imposer quelque chose aux autres, nous exerçons une pression sur eux et cette pression se fait sentir au niveau de notre système nerveux. Nous sommes agités, nous rougissons, nous remuons les jambes, notre rythme corporel change subitement. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais si nous prenons un peu de recul et réalisons que notre rythme corporel vient de changer, que nous rougissons tout d'un coup, que nous sommes agités, c'est le signe que notre conscience se manifeste. Si nous prêtons attention à cette agitation, à ce qui se passe en nous, que nous ressentons ce qui se passe au niveau de notre plexus solaire, dans notre système nerveux central, nous remarquons soudain, nous le ressentons, que nous avons dit quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Nous remarquons que nous exerçons une pression sur nos prochains, que nous attendons d'eux ce qu'en fait nous pourrions faire nous-mêmes et que nous les poussons à le faire pour nous. C'est de cette manière que se manifeste notre conscience. Celui qui bâillonne sa conscience, par exemple en voulant avoir toujours raison, ne remarque même pas qu'il devient fébrile. Il est agité et ne perçoit plus les fins mouvements de sa conscience, car il ne parvient plus à trouver le calme qui lui permettrait de la ressentir. Souvent, il s'exclame « mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. » Mais pourquoi en appelle-t-il à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ses pensées causales et son comportement causal? Et si on lui dit « mais ce que Dieu nous demande est bien différent », il répond « ah, mais c'est juste une façon de parler quand je dis « mon Dieu ». ». Mais pourquoi utilisons-nous « mon Dieu » de manière aussi superficielle? Parce que nous avons peur. En fin de compte, nous avons peur de nous-mêmes, de nos propres enregistrements. On pourrait donc dire que dans notre agitation et à travers nos peurs, c'est aussi notre âme qui lance un appel au moyen de cette exclamation « mon Dieu ». Par contre, celui qui parvient à dire « mon Dieu, aide-moi à avoir des prises de conscience sur moi-même en regardant de plus près ma volonté d'avoir toujours raison », celui-ci commence peu à peu à s'analyser, à réfléchir sur lui-même, et lorsqu'il a reconnu une partie de ce qu'il est réellement, il devient plus calme. Peut-être ressent-il de la honte et se dit « en fait, j'en appelle à Dieu dans un but tout à fait personnel, j'abuse de son nom ». C'est l'ego, l'amour de l'ego, l'amour égocentrique de soi-même, mais pas l'amour de Dieu. Au moment où nous commençons à interroger et à analyser nos pensées, nos paroles, tout notre comportement, nous ressentons pourquoi nous avons peur et pourquoi notre âme, à travers nos peurs, lance cet appel « mon Dieu ».
Plus d'un d'entre nous s'est certainement reconnu en partie dans ce que nous venons d'entendre et a appris qu'il existe un outil simple qui nous permette toujours d'avancer. C'est la question « pourquoi ?». Le passage qui suit parle d'une autre question intéressante pour tous ceux qui cherchent Dieu, à savoir comment reconnaître la volonté de Dieu. Je cite « L'Éternel nous a fait part de sa volonté à travers Moïse. Sa volonté est que nous accomplissions pas à pas les commandements qui sont des extraits de la loi éternelle de l'amour. Et Jésus, le Christ, nous a donné les enseignements de l'amour. Pourquoi ? Pour que nous les accomplissions, et non pour que nous nous contentions d'en prendre connaissance. Celui qui s'exerce chaque jour à accomplir les commandements de Dieu se rapproche de son amour et devient peu à peu un porteur de flambeau qui enflamme les cœurs. C'est uniquement en accomplissant progressivement les lois de l'amour que nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous détachons alors, petit à petit, de notre volonté propre. Notre conscience s'élargit et s'ouvre à la grande unité qu'est l'amour universel. Nous allons maintenant entendre un extrait en live de cet enseignement sur l'amour de Dieu, avec en arrière-fond la voix de Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu.
Gott ist die Liebe.
Dieu est amour. L'être humain ne peut ressentir et recevoir cet amour que s'il aime Dieu. Alors, comme cela a été dit auparavant, notre conscience s'ouvre. Nous pensons de moins en moins à nous-mêmes, à notre ego, à l'amour égocentrique de nous-mêmes. Nous sommes énergétiquement des porteurs d'amour et nous ressentons ce que signifie l'unité. Car alors, notre horizon s'élargit et nous ressentons, percevons et faisons l'expérience que l'amour qui œuvre en tout est dans le firmament, que l'amour qui œuvre en tout est dans et sur la terre-mère, qu'il est en chaque animal, en chaque plante, en chaque pierre, et en fin de compte aussi en chaque être humain. Ce n'est que lorsque nous prenons conscience de cela que nous ressentons ce qu'est l'unité et que nous avons alors honte de ne penser qu'à
nous-mêmes. Denn alles in unserem Leben wird nur für den erträglich, der die Gewissheit besitzt.
Car tout ce qui se passe dans notre vie n'est supportable que si nous avons la certitude que le Christ est en nous et que nous vivons cette certitude. Alors seulement nous savons que nous sommes portés et conduits par la force toute-puissante de l'amour et de la sagesse. Lorsque nous avons acquis cette certitude, nous pensons de moins en moins à nous-mêmes. Notre conscience s'élargit et nous ressentons ce qu'est l'amour universel. Apprenons à avoir cette certitude en regardant les animaux dans les yeux. Apprenons à avoir cette certitude en regardant le firmament et en ressentant que la toute-puissance et l'amour de Dieu sont présents et agissent de la même manière en nous. Ressentons battre le cœur de la nature, de la terre-mère. Apprenons. Nous n'avons jamais fini d'apprendre jusqu'à ce que nous soyons parfaits. Si nous continuons à apprendre, nous réalisons que Dieu est omniprésent, qu'il est amour. Et s'il nous arrive à nouveau de vouloir imposer quelque chose à notre prochain et que nous sommes alors agités, nous n'invoquerons plus le nom de Dieu. Nous aurons plutôt honte d'être tel que Dieu ne veut pas que nous soyons. Tant que l'être humain n'est pas conscient de sa filiation divine et qu'il ne se comporte pas en tant que fils ou fille de Dieu, il cherche des lieux de culte faits de mains d'hommes, bien qu'il soit écrit que le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, ni dans des lieux de culte, mais dans le temple vivant qu'est l'âme de l'être humain. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?»
Es steht geschrieben, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wer sich der Tempelreinigung bewusst ist,
celui qui sait qu'il doit purifier son temple et le fait également, est proche du royaume de Dieu, qui est amour. Dieu est amour. Seul s'éveille à la lumière de l'unité celui qui affirme en tout et en tous la lumière de la vérité et se comporte de manière à ne faire souffrir ni les êtres humains, ni les animaux, ni les plantes, ni les pierres. Celui-là parvient peu à peu au grand amour qui est unité.
Der gelangt allmählich zu der großen Liebe, die Einheit ist.
Après cet extrait de l'enregistrement original, donné par la sagesse divine, nous poursuivons la lecture de cet enseignement. Gabriel y explique ce qui suit. L'être humain devrait donc devenir plus désintéressé. Plus il devient désintéressé et prêt à sacrifier son moi humain, plus s'éveille en lui la nostalgie du grand amour avec lequel il aspire à s'unir. Les animaux ne font qu'un avec leur Créateur. Et nous, les êtres humains, sommes-nous unis au grand amour? Sommes-nous en unité avec l'amour de Dieu? Si ce n'est pas le cas, nous ressentons une peur qui nous transperce le cœur, car nos ombres nous mettent en garde pour que nous les dissolvions et que la lumière puisse nous inonder. Nous parlons beaucoup de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais que signifie l'amour pour Dieu et pour le prochain? Cela signifie vivre dans la conscience de l'unité. Le commandement donné par Dieu est « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ». Aimer Dieu par-dessus tout signifie ne plus faire le mal, accomplir progressivement les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus de Nazareth. Faire des pas vers l'amour pour Dieu et pour le prochain vers ce qui est au plus profond de notre prochain, vers les animaux, les plantes, vers la terre-mère, nous ouvre les yeux. Celui qui ne pense qu'à lui-même est enraciné dans l'égoïsme. C'est malheureusement le cas de nombreuses personnes. Dieu est l'amour. Si nos yeux s'ouvrent parce que nous faisons les pas qui mènent à l'amour pour Dieu et pour le prochain, nous ressentons soudain que le Créateur, le puissant esprit de l'amour, nous regarde à travers les animaux, les plantes et les minéraux. Lorsque nous regardons dans les yeux d'un enfant, nous ressentons que son regard rayonne vers nous une aspiration à la sécurité, à l'unité. Bien souvent, en regardant dans les yeux des adultes, nous y voyons de la fausseté et dans leurs mots, un leurre qui dissimule de l'égoïsme. Cependant, si nous ne rejetons pas notre prochain et que nous prenons conscience que son âme est une partie de nous-mêmes, alors il nous est possible d'accepter cette personne et de voir son âme comme une partie de nous-mêmes, car Dieu est unité. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons affirmer et accepter les défauts, l'égoïsme de notre prochain. Cela le regarde. Il nous est commandé de ne pas rejeter notre prochain, mais d'affirmer ce qui se trouve au plus profond de lui, d'accepter son âme et, si possible, de prier pour elle, non pas en ayant l'arrogance de nous croire meilleurs, mais en étant conscient que Dieu aime tout ce qui est pur en chaque âme. Dieu est ce qui est pur en chaque âme et donc en chaque être humain. Dieu est bon en chaque âme, dans l'âme de chaque être humain.
Et la messagère de Dieu encourage tous les chercheurs de Dieu en disant, je cite, « Si nous apprenons à changer notre manière de penser et que nous commençons à prendre conscience que Dieu, l'amour, ce qui est bon, se trouve en chaque être humain, dans toutes les personnes que nous rencontrons jour après jour dans notre environnement proche, y compris au travail, alors il est possible que, malgré tout, nous soyons encore parfois irrités par certains aspects négatifs de nos prochains, mais nous ressentirons peu à peu que ce qui est au plus profond de chaque être humain est une partie de nous-mêmes. Alors seulement les échanges que nous aurons avec notre prochain seront constructifs. Nous ne serons plus dominants, mais réservés, afin de comprendre ce que notre prochain veut vraiment nous dire ou pourquoi il se comporte de cette manière. C'est ainsi que se développe l'amour pour ce qui est au plus profond de notre prochain. Alors, nous ne rejetterons plus personne, nous ne nous détournerons de personne. Lorsque nous aurons appris à nous comporter ainsi envers notre cercle proche, nous agrandirons ce cercle aux gens que nous ne connaissons pas, comme nous le disons. Cependant, l'âme qui est dans notre prochain nous connaît, et notre âme connaît l'âme de notre prochain. Parce que Dieu est unité, parce qu'il nous a insufflé notre nature véritable, l'amour, ce qui est bon, et que notre nature véritable est l'amour, ce qui est bon en nous ainsi que dans notre prochain. Si nous agrandissons ainsi ce cercle et que nous ne nous irritons pas constamment contre notre prochain en raison de ses aspects de nature humaine, que nous n'émettons pas de pensées négatives contre lui, mais qu'au contraire, nous prenons toujours plus conscience qu'en lui se trouve un être qui est une partie de nous-mêmes, que nous sommes nous-mêmes une partie de ce qui est au plus profond de lui, et que nous appartenons tous deux à Dieu, qui est amour, bonté et unité, alors nous cesserons très vite de juger, de condamner, voire de rejeter notre prochain. Car en rejetant notre prochain, nous nous détournons de Dieu, nous nous détournons d'une partie de notre conscience qui est unité, de notre prochain en nous. Chers amis, Cet enseignement, qui s'adresse aux personnes de toute culture dans le monde entier, nous a montré que Dieu est amour, que Dieu est unité. Et toute personne qui cherche sincèrement Dieu peut se rapprocher de cette unité dans sa vie. Chaque journée offre de très nombreuses possibilités ainsi que de nombreux moments d'apprentissage, car la véritable école, c'est la vie. Nous prenons maintenant congé de vous en vous souhaitant une bonne continuation et vous adressons une chaleureuse salutation en Dieu.